Bonjour, bienvenue dans ce lieu de culte ce dimanche matin. Au fait, le dimanche, c'est le premier ou le septième jour de la semaine? Moi, j'ai dû mettre en marche la chaudière parce qu'il commençait à faire frais. Hein. Et puis, c'était au milieu de la semaine passée, et je me suis trouvé devant situation tout à fait cornélienne. Dans mon système de programmation, il faut donner le numéro du jour. Jour 1, jour 2, jour 3, etc., jour 7. Puis, pour chaque jour, on peut programmer différemment le démarrage de la chaudière. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors, le dimanche, je pourrais partir un peu plus tard, faire démarrer le chauffage un peu plus tard, mais c'est le jour 1, parce que quand même, c'est le jour de la résurrection, c'est le dimanche, c'est comme si ça démarrait de nouveau. Ou bien c'est le jour 7, parce que c'est... Voilà. C'est vrai, dans le premier récit de la création, hein, dans Genèse, Dieu organise l'immensité jour après jour. Il allume la lumière, il sépare le sec du mouillé, il sème de l'herbe, il sème des arbres, il déploie le ciel, il installe les astres, là, là. Il suscite la vie dans la mer, les poissons. Il suscite la vie dans les airs, les mouettes. Ah ! Sur la terre, les animaux qui courent ici, là, les vers qui rampent. Et il crée l'homme. Il crée l'homme à son image, homme et femme. Et c'était très bon. Oh. Bref, c'est 6 jours d'une organisation précise, d'une mise en place soignée, d'un effort soutenu, de décisions réfléchies, 6 jours d'action décisive, 6 jours d'activité intense, 6 jours de travail d'arrache-pied. Le monde est prêt à fonctionner. Un boulot du tonnerre. Et vous, comment était votre semaine? C'était une semaine intense? C'était une semaine monotone? Une semaine épuisante? Une semaine stressante? Une semaine triste? Une semaine agréablement équilibrée? Une semaine de folie? Le septième jour, Dieu s'arrête et se repose de tout son travail. Et Dieu bénit le septième jour. Et Dieu le sanctifie, le met à part. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour l'extraordinaire splendeur de ta création. Nous te bénissons de faire surgir la vie des ténèbres informes. Et nous te bénissons parce que tu nous connais. Parce que tu sais que nous avons besoin de ce repos bienfaisant, du repos que tu offres. Aujourd'hui, nous nous présentons devant toi, parce que nous reconnaissons que nos semaines, aussi pleines soient-elles, nos semaines sont vides si tu n'y es pas présent. Et nous voulons te rencontrer. Parle, Seigneur. Et accorde-nous ton Saint-Esprit pour que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire à chacun. Amen. J'invite le groupe de louanges à monter pour nous entraîner dans ce moment de louange. Je finis juste mon histoire de chaudière pendant ce temps. Donc j'ai choisi 7 pour le dimanche. Et j'ai fait effectivement démarrer le chauffage 1h30 plus tard. Vous voyez, c'est la possibilité du repos, c'est la possibilité aussi de l'écologie, les deux choses conjuguées.
Comme un cerf ou comme une biche qui soupire auprès des ruisseaux, de même je soupire après toi, ô mon Dieu, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et me présenter devant Dieu ? C'est le psaume qui était proposé avec le lecteur ce matin dans la Bible. Est-ce que vous avez soif ce matin? Oui. Est-ce que vous aviez hâte de venir? Non pas que vous étiez un peu en retard, mais hâte de venir rencontrer le Seigneur, je le souhaite. En tout cas, on est là pour lui rendre un culte joyeux. Alors approchons-nous de lui avec des chants, avec notre cœur, avec notre être, pour le louer, pour que nous puissions reconnaître le Seigneur dans toute sa création, dans chaque instant de notre vie, dans sachons voir la main de Dieu dans le rire d'un enfant, dans le regard d'un passant, dans chacun de nos jours. Apprenons à voir le Seigneur et à lui rendre gloire à chaque instant.
Ces couleurs sur la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voile, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je au éternel, pour que tu penses à moi, quand se posent mes yeux sur ton immensité. Le temps qui suit sa ronde, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les rires d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je au éternel, pour que tu penses à moi, quand se posent mes yeux sur ton immensité. Au Dieu de l'infini, sois la gloire éternelle et le fruit de nos vies. Que l'on voit comme un cœur s'élève jusqu'à toi.
Psaume 86. Parmi les dieux, aucun n'est comme toi. Seigneur, aucun ne pourrait faire ce que tu as fait. Tu as créé toutes les nations. Elles viendront s'incliner devant toi pour t'apporter leurs hommages, Seigneur. Car tu es grand, tu fais des merveilles, tu es le seul Dieu. Seigneur, montre-moi quel chemin je dois suivre. Je veux vivre en te restant fidèle. Mais en moi, cette seule préoccupation, rester soumis à ton autorité. Seigneur mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, je t'apporterai mon hommage pour toujours. Ta bonté pour moi est immense, tu m'as arraché au gouffre de la mort. Combien y a-t-il de raisons pour louer le Seigneur ? Le chant qu'on va prendre, c'est 10 000 raisons de louer le Seigneur. Qu'on puisse le louer dans tous les instants de notre vie, de l'aube au crépuscule de notre vie. Et je crois que même au-delà de la mort, on pourra louer le Seigneur et l'adorer.
Thank you.
Seigneur, nous voulons te prier, te louer, t'adorer pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as créé dans ce monde. Oui, comme il a été rappelé au début de ce culte, ces 6 journées de création, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais il y a une description magnifique dans la Bible et on te remercie pour cette révélation. Te remercie pour toutes les créations que tu fais chaque jour. Pour ce que tu veux créer encore aussi aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos relations. Seigneur, tu es un Dieu infiniment grand. Et nous voulons te louer pour cela. Je vous invite à poursuivre avec quelques prières de louange.
Et le cantique que donc l'homme, ô Éternel, que tu prennes garde à toi. Et Seigneur, si nous voulions vraiment avoir la preuve de ce que tu prennes garde à nous, il suffit de penser à Jésus-Christ, que tu as envoyé jusqu'à la mort, Seigneur, pour nous avoir avec toi, par amour qui est infini, par amour qui est désintéressé. Merci Seigneur encore de cette preuve de ton amour. Amen.
Mais Seigneur, est-ce que nous n'avons pas pu exprimer à haute voix que tu puisses entendre le fond de nos cœurs, parce que tu connais nos cœurs. Merci pour les enfants qui sont avec nous ce matin et qui eux aussi ont un cœur d'adoration et qui vont chanter avec nous aussi ce chant encore d'adoration. Nous adorons Adonai et bénis tous ces enfants, qu'ils puissent eux aussi te louer à leur manière, avec leurs mots, avec leurs gestes. Nous te prions aussi pour l'enfant qui se prépare avec Rebecca Terra et te demandons aussi de aussi mettre ta main sur cette création. Seigneur, oui, que nous puissions former une communauté unie qui veut te rendre gloire à toi, Seigneur. Amen. Nous te louons, Seigneur.
créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur.
Voilà, nous laissons les enfants regagner leur groupe. Et je veux encore accueillir particulièrement Michel Jean-Renaud qui apportera la prédication. Michel Jean-Renaud est pasteur d'une église sœur qui est en ville de Genève, l'église de la Pélisserie. Bienvenue encore, Michel. Le texte choisi pour aujourd'hui se situe dans l'évangile de Luc au chapitre 14, les versets 15 à 24, Luc 14. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. »
Bonjour donc à chacun, que je n'ai pas eu l'occasion de saluer encore. Je souhaite vous apporter, avant la prédication, les salutations donc des frères et sœurs de la Pélisserie. Ça a été dit, mais je vous le rappelle, M. Roger Souel donc, apporte le message à l'église de la Pélisserie. Et donc, ça fait partie d'échanges qu'on veut avoir deux fois par année environ, avec les quatre communautés de la Fédération romande d'église évangélique sur Genève, d'avoir ces échanges de prédicateurs. Et voilà, on a lu un texte qui nous parle, je pense. Hein. Il est question d'un repas, il est question d'invitation. Et ma première question, c'est est-ce que vous aimez être invité ? Voilà, je connais peu de personnes, enfin je ne crois pas que j'en connais, qui n'aiment pas être invité. Mais bon, parfois quand même, il y a certaines invitations, on se demande comment ça va se passer. Enfin, pour ma part. Et donc, ce n'est pas toujours simple, on va dire. Mais notre passage, eh bien, va nous montrer différentes choses par rapport à l'invitation que Dieu fait à tous les hommes. Et on va voir justement quelles sont les réponses que chacun peut faire à cette invitation à croire en Dieu, en Jésus-Christ et en son amour. Et on va voir aussi parfois quelles sont nos raisons pour négliger l'invitation que Dieu nous fait à nous en tant que chrétiens. Parce que je crois que ce passage s'adresse à chacun, aux chrétiens comme aux non-croyants. Ce passage, il se situe dans l'évangile de Luc, et c'est donc le troisième évangile. Luc, c'était un compagnon de l'apôtre Paul. Il était allé avec lui dans tous ses voyages, dans toutes sortes de voyages missionnaires, et il a voulu donc écrire un récit de la vie de Jésus-Christ. Et un accent particulier de l'évangéliste Luc, c'est qu'il prend à cœur de parler des personnes exclues, des gens qui sont petits, qui sont faibles, des femmes également, de toutes sortes de ces personnes qui parfois sont exclues dans nos sociétés. Un autre accent dans l'évangile de Luc, c'est souvent on voit des petits détails quant aux guérisons que fait Jésus. Et donc dans notre passage, il se situe dans le cadre d'un repas. Les paroles que nous avons entendues se situent dans le cadre d'un repas. Jésus était invité à un repas et il va donc donner cet enseignement que nous avons entendu. On va voir ce que sont les différents personnages de cette histoire et on va voir les différents éléments de cette histoire. Tout d'abord, il y a cet homme qui fait une invitation. Alors c'est très généreux à lui, tout d'abord, de penser à inviter des gens pour ce repas. On voit qu'il y a un grand repas qui est préparé, on voit qu'il envoie des personnes pour inviter des gens. Et cet homme, si on le prend d'une manière figurée, eh bien il représente Dieu. Il représente Dieu qui offre son amour à tous les êtres humains, qui veut que tous, en fait, viennent à croire en lui, se repentent de leurs péchés et obtiennent la vie éternelle. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette invitation, elle n'est pas réservée à un petit groupe. Elle est très généreuse. Au verset 16, il est dit qu'il invita beaucoup de gens. Alors, nous, quand on fait une invitation pour un repas, en général, on va calculer le nombre de convives et on va faire cuisiner en fonction, disons. On ne va pas, normalement, créer un repas pour 10 personnes de plus que prévu, disons. Bien qu'à une époque, on disait qu'il fallait toujours réserver une place pour le visiteur qui venait. Mais ce qu'on peut dire au niveau spirituel, c'est que l'offre de l'évangile, la bonne nouvelle, eh bien, elle est pour chacun, elle est pour le monde entier. Ce grand repas dont il est question dans ce texte, c'est une image du salut que Dieu nous donne, que Dieu nous a donné. Dans cette expression, ce grand repas, il y a l'idée d'un très bon souper et il y a l'idée d'une grande dépense qui a été faite pour ce repas. Alors ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes appelés à croire que le salut que Dieu nous donne, dont nous avons l'assurance aujourd'hui et qui va se concrétiser dans l'éternité, eh bien il faut se réjouir à cette pensée de ce salut. La vie que Dieu nous donne, la vie éternelle qu'il nous accorde dès que nous croyons dans son Fils, Elle commence dès maintenant et c'est quelque chose de très riche. Il ne s'agit pas d'un pique-nique à l'emporte-pièce ou d'un repas où on doit rationner ce qu'on mange. La vie avec Dieu, eh bien, dans cette image, dans cette histoire, c'est un festin. Et cette idée-là, elle est très bien reprise dans l'expression « les noces de l'agneau ». À la fin des temps, il y aura un événement qui s'appelle les noces de l'agneau. C'est comme un mariage et c'est une expression figurée, imagée, pour parler de la joie qu'auront tous ceux qui auront été sauvés de voir et de connaître davantage le Seigneur. Ce que je veux dire aussi, c'est que toute cette histoire, je l'ai dit, elle se situe dans le cadre d'un repas auquel Jésus était invité. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit que Jésus, eh bien, il a utilisé une circonstance banale, très simple, un repas, pour parler d'une réalité éternelle, d'une réalité spirituelle. Et ça, c'est très beau de voir cela. Moi, ça m'encourage, parce que je me dis que Dieu, voilà, il peut utiliser toutes les circonstances de ma vie pour permettre, à un moment donné, que je parle de l'amour de Dieu ou que je montre l'amour du Seigneur. Et ça, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous d'être attentif au moment que Dieu nous met dans notre vie pour être témoin de lui. Alors bien sûr, pour cela, le plus important, c'est d'être régulièrement en relation avec le Seigneur, d'avoir une relation qui est nourrie avec Dieu. Et c'est le Seigneur qui nous montre ces occasions de témoignage ou de service. Qui sont ces premiers invités ? Ces premiers invités, eh bien, ils représentent les autorités juives du temps de Jésus. Et on voit que ces autorités juives, on le sait, eh bien, elles ont rejeté le message de Jésus-Christ. Elles n'ont pas cru que Jésus était vraiment le Messie, le Fils de Dieu. Cela aboutit évidemment à la mort de Jésus sur la croix, qui est une bonne chose pour notre salut. Mais en fait, la circonstance, c'est qu'il y a des personnes qui ont rejeté ce message. Ces personnes, eh bien, elles étaient invitées à un très bon repas. Et pourtant, elles n'ont pas voulu assister à ce repas dans l'histoire. On va regarder justement maintenant les excuses dans l'histoire qu'ont données ces personnes et faire des parallèles avec aujourd'hui ce que ça peut représenter. La première chose qu'il faut dire, et ça pourrait être le titre du message, avec Dieu, il n'y a aucune excuse qui est acceptée. Aucune excuse pour le rencontrer. Dieu, en fait, il ne va pas accepter les excuses que vont apporter les gens ou qu'ils apportent aujourd'hui pour ne pas faire sa connaissance. Pour le dire d'une autre manière, et peut-être d'une façon plus positive, nous avons toutes les raisons du monde de chercher à rencontrer notre Seigneur. Nous avons toutes les raisons du monde à participer à ce repas, à participer à cette relation que Dieu nous propose. La première personne dit qu'elle a acheté un champ et qu'elle est obligée d'aller le voir. Alors ça, c'est l'excuse de celui, peut-être, qui a beaucoup d'affaires, qui fait du commerce et qui pense que toutes ces affaires commerciales, eh bien, voilà, ça prend beaucoup de place dans sa vie. Et il n'y a plus de place pour nourrir la relation avec Dieu. Mais d'un point de vue logique, même si vous êtes dans le commerce, dans le business, comme on dit, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas pu retarder le fait d'aller voir ses champs. Il aurait pu aller après le repas ou le lendemain. Mais ce qu'on peut dire, c'est que nous aussi, parfois, eh bien, on fait un peu comme cet homme. On fait confiance à des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment de prise. Si vous avez déjà acheté un objet sur l'Internet, vous avez vu la photo de l'objet, mais vous n'avez pas tenu cet objet dans la main normalement. Pourtant, on fait confiance au vendeur. Eh bien, avec Dieu, c'est vraiment différent. Dieu, il nous a démontré dans la parole qu'il est digne de confiance et qu'on peut entièrement croire ce qu'il nous dit et entièrement chercher à développer notre relation avec lui. Il y a un commentateur par rapport à cela qui dit que cet homme, il préfère éviter la présence de Dieu et il préfère choisir la présence de la poussière, du champ justement qu'il doit aller voir. Et l'ironie, c'est que cet homme, eh bien, il va redevenir poussière un jour. Ensuite, il y a l'excuse de celui qui va travailler. Il doit aller voir ses bœufs. Verset 19. Alors là, c'est le cas de tous ceux qui font passer leur vie professionnelle avant Dieu. Alors, il ne faut pas justement penser que Dieu néglige le travail ou trouve que c'est une mauvaise chose. C'est Dieu qui a ordonné à l'homme de travailler. Mais par contre, quand le travail prend la place de Dieu dans la vie de quelqu'un, là, ça devient grave. Quand la vie professionnelle, la carrière est le seul horizon d'une personne et que cette personne met toute son énergie là-dedans et qu'elle néglige totalement Dieu, eh bien là, c'est une excuse qui ne tient pas devant Dieu. Et je ne parle pas ici des personnes qui sont obligées de travailler à cause d'horaires irréguliers et qui ne peuvent pas participer à des réunions avec les frères et sœurs. Je parle de personnes qui ont comme seul horizon leur vie professionnelle. Dieu n'a pas ordonné à l'homme de travailler pour qu'il devienne esclave de son travail. Mais l'attitude correcte, c'est plutôt de dire « Seigneur, aide-moi dans mon travail et je veux aussi nourrir ma relation avec toi. » Alors là, c'est à chacun de voir où il en est et c'est à chacun d'essayer de faire des ajustements pour nourrir plus sa relation avec le Seigneur. La prochaine excuse, c'est l'excuse familiale. Alors j'ai appris qu'il y a eu un mariage hier, c'était pas prévu dans mon texte, enfin c'était prévu dans mon texte, mais j'avais pas prévu qu'il y aurait un mariage ici. Et c'est une excuse assez difficile, hein. Je viens de me marier, voilà, j'ai envie aussi d'aller profiter du temps avec mon épouse. Et ça nous paraît très normal. Mais en fait, si on lit cela, si on relit cela à d'autres enseignements de Jésus, c'est de nouveau la même chose. Le Seigneur veut qu'on le mette, lui, à la première place, avant même notre conjoint ou notre conjointe. Parce que là, le Seigneur n'a pas non plus accepté cette excuse. Il dira ailleurs, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Et le verbe « haïr » pris ici, eh bien, il a le sens d'aimer moins. Ce n'est pas qu'il faut avoir une haine comme on la comprend pour son conjoint. Au contraire, il faut aimer son conjoint ou sa conjointe. Mais on doit toujours mettre Dieu à la première place. Et Jésus, il n'était certainement pas contre la famille. Il a recité les commandements d'honorer son père et sa mère. Il a dit même que celui qui ne s'occupait pas de ses parents était pire qu'un incrédule. Encore une fois, il s'agit de voir quelle place nous accordons à notre famille, à notre conjoint. Et il peut y avoir des situations où la famille ou le conjoint prennent la place de Dieu, et ça ne devrait pas être ainsi. Si on veut résumer toutes ces excuses, elles sont simplement de l'ordre de la rébellion contre Dieu. Et c'est le cœur de la personne qui doit être changé. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est bon de penser justement à ce que Dieu a préparé pour nous. Je l'ai parlé déjà de cette image du repas. Et si je vous disais que j'allais vous offrir une belle maison et qu'elle est équipée et tout, et que vous pouvez y loger pendant un mois pour vos vacances et tout cela, vous ne viendriez pas me dire « Michel, il faut que je balaye chez moi » ou « Michel, il faut qu'on aille préparer un repas chez nous ». Vous seriez content de cela. Alors la chose, c'est que Dieu, il nous propose cette belle relation. Il nous propose toujours de grandir avec lui, d'avancer avec lui. Et on a besoin d'être rappelé que vraiment, il souhaite que nous soyons davantage en communion avec lui. Ce texte nous parle également de la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Est-ce qu'on peut voir, on voit cette grandeur, parce que le maître de la maison, celui qui envoie les messagers, eh bien, il ne se décourage pas quand il y a les premières personnes qui refusent de venir. Non, il envoie les serviteurs vers d'autres personnes. Et là, c'est une image de ces responsables juifs qui ont rejeté Christ, mais c'est aussi une image de chacun d'entre nous. Ces pauvres, ces estropiés, ces aveugles, ces boiteux, eh bien, c'est nous, c'est notre état spirituel avant que nous ayons rencontré Jésus. Et c'est peut-être encore nous si nous sommes blessés d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur, il souhaite justement nous aider dans nos difficultés, dans nos faiblesses. Il souhaite justement que nous participions à ce repas. Pour cela, il faut déjà se reconnaître comme ayant besoin de lui. Et c'est là où l'image justement d'être aveugle, boiteux ou estropié, eh bien je pense qu'elle peut nous parler. Est-ce que nous attendons tout de Dieu ou est-ce que nous le considérons comme un à côté? Ma prière, c'est que nous puissions le considérer comme celui qui veut entièrement nourrir notre vie. J'aimerais encore donner une illustration avant de terminer ce message. Lors du couronnement de la reine Élisabeth, Élisabeth II, si je ne me trompe pas, eh bien, c'était un grand événement. Ça s'est passé il y a des années en arrière. Hein. Peut-être certains s'en souviennent. Moi, je ne crois pas que j'étais né. Non, je n'étais pas né. Voilà. Et cette reine ou ses ministres, eh bien, ils ont envoyé des invitations à ces sujets pour le couronnement, pour la cérémonie. Et sur cette invitation, il était écrit au bas de l'invitation. Aucune excuse acceptée. Aucune excuse acceptée. Alors, voilà, Dieu, il ne nous dit pas qu'il n'y a aucune excuse qui est acceptée, il ne nous met pas sous un fardeau. Mais si on se réfléchit que l'invitation de Dieu, eh bien, elle vaut beaucoup plus que l'invitation d'une reine, eh bien, ça va nous encourager à consacrer davantage de temps pour rechercher le Seigneur et pour le prier et cultiver notre relation avec lui. Et c'est vrai que le Seigneur, il ne va pas accepter les excuses de tous ceux qui auront refusé de croire en lui. Et c'est une réalité, et c'est pour cela aussi qu'il faut qu'on continue de prêcher l'Évangile, qu'on témoigne l'amour, et qu'on prie pour tous ceux qui entendent l'Évangile et qui sont confiés dans notre vie, qui nous sont confiés. Alors justement, nous allons pouvoir prendre un temps de prière par la suite. Donc, aussi pour vous, comme réponse à ce message, nous pouvons prier pour les gens que nous avons sur le cœur qui ne le connaissent pas, ou nous pouvons nous apporter nous-mêmes à Dieu si justement nous sommes quelque part comme blessés dans notre vie et que nous avons besoin de croire à nouveau à ce merveilleux festin spirituel que Dieu veut nous donner. Je voudrais avant cela encore traiter d'un point. J'en ai brièvement parlé. La circonstance historique auquel ce passage fait référence, c'est évidemment le refus des autorités juives de croire en Christ. Mais ça ne signifie pas que le peuple juif, aujourd'hui, en Israël, eh bien, il soit perdu ou maudit. Bien au contraire. L'Épître aux Romains dit ceci. C'est Paul qui parle et il dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » L'Évangile est une bonne nouvelle pour tous ceux qui croient, qu'ils soient juifs ou non juifs. Et il n'y a personne qui ne soit pas atteint par cette proposition de bonne nouvelle. Il n'y a personne qui ne peut pas y répondre. Notre prière, c'est que le plus de personnes puissent répondre à cette invitation et que l'Église puisse grandir et que nous puissions ensemble nous réjouir en vue justement de l'éternité dans laquelle nous aurons la joie de côtoyer le Seigneur face à face et de partager la joie avec tous les frères et sœurs des Églises chrétiennes, de l'Église universelle. En conclusion, je vais faire la conclusion sous forme de questions pour essayer de nous aider à réfléchir, à aller plus loin. Nous avons vu plusieurs choses ce matin. Nous avons vu que le Seigneur ne s'est pas découragé, mais qu'il a envoyé des messagers vers des personnes. Il leur a parlé de manière directe également. Il leur a également raconté une histoire, une parabole, pour leur faire comprendre une réalité spirituelle. Est-ce que nous-mêmes, nous avons à cœur que les gens autour de nous comprennent la parole de Dieu ? Est-ce que nous avons à cœur d'être pertinents auprès de ceux que Dieu nous a confiés, pour leur témoigner l'amour de Jésus ? Que nous puissions demander à Dieu, justement, la manière dont il veut que nous soyons témoins. Ensuite, on a vu ce matin différents types d'excuses que chacun peut apporter à Dieu. On a vu aussi que les différentes choses, comme le travail, ou le commerce, ou la vie familiale, eh bien, ce sont des choses importantes, mais qu'elles ne doivent pas prendre la place de Dieu. Alors, où en suis-je avec cela ? Est-ce que j'ai conscience qu'il y a des choses qui ont pris la place du Seigneur dans ma vie ? Si c'est le cas, eh bien, je dois refaire un ajustement. Je dois demander à Dieu qui m'aide à rééquilibrer tout cela. Nous avons vu finalement ce matin la grandeur de cette invitation, de ce repas. Que nous puissions aussi avoir l'amour de Dieu qui grandisse dans notre cœur pour ceux qui sont spirituellement pauvres, estropiés, aveugles ou boiteux. Que nous puissions leur porter l'amour du Christ et leur témoigner l'amour. Amen. Alors je l'ai dit, il y a un temps de prière maintenant qui est ouvert à tous et je terminerai ce temps par une prière. Amen. Amen.
Seigneur, nous voulons te dire merci de ce que nous sommes uniques pour toi. Ces réponses, elles sont personnelles à chacun. Seigneur, que tu nous montres à chacun.
Amen. Père, merci pour les promesses de la parole. Merci pour cette image du festin, de ce repas auquel tu nous invites. Et donne-nous, Seigneur, vraiment la foi. De croire à cela, la foi de regarder à toi comme celui qui est bon et généreux envers nous et qui ne cherche pas à punir constamment tes enfants, mais au contraire qui cherche à les aider à progresser et à marcher avec toi. Aide-nous aussi, Seigneur, à te présenter comme celui qui seul peut faire sens dans la vie de quelqu'un, comme celui qui aussi peut guérir spirituellement les blessures des personnes. Nous te louons parce que nous croyons que vraiment tu le fais déjà dans notre vie. Tu nous aides ou tu nous as aidés à aller mieux dans différents domaines. Et nous te demandons vraiment que cela puisse continuer, que tu continues de nous travailler, de nous transformer, Seigneur. Merci parce que tu le fais et que tu veux encore le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous arrivons à ce temps de Sainte-Cène où nous rappelons la mort du Seigneur Jésus. Et je vous invite tout d'abord à entrer dans ce moment au travers du chant Homme de douleur.
esprit, et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter.
Jésus dit à ses disciples, j'ai vivement désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous. Jésus exprime un vif désir de partager le repas. Mais avec qui le partage-t-il? Qui sont ces hommes autour de la table? Pierre, qui reniera trois fois? Judas qui va quitter la table pour trahir, Thomas l'incrédule, Jacques, Jean et les autres qui vont se disputer, se quereller juste après pour savoir qui est le plus grand. Pas des personnes très dignes, quand même pas très clean, des qualités spirituelles moyennes, pas des tops. J'ai vivement désiré prendre ce repas avec vous. Et à notre tour, nous sommes invités à la table du Seigneur Jésus. Et à notre tour, nous y sommes désirés. Nous prions. Seigneur Dieu, nous ne sommes pas dignes. Pas digne d'être en ta présence. Devant toi, nous reconnaissons nos faiblesses, nos aigreurs, nos rancunes, nos lâchetés. Souvent, nous laissons le mal gangréner nos relations et la mort ronger la vie que tu nous as donnée. Pardonne-nous, Seigneur. Amen. Et voici la bonne nouvelle. Jésus offre sa vie pour les pécheurs et pas pour les gens qui se considèrent bien sous tout rapport. Ce sont les malades, dit-il, qui ont besoin d'un médecin, pas les gens en bonne santé. Je ne suis pas venu chercher des gens respectables, mais je suis venu chercher les pécheurs. Pour qu'il change de vie. Je lis l'institution de la Sainte Cène dans l'Évangile de Luc. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres et il leur dit: j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit: prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux, qu'il leur donna en disant: ceci est mon corps. Il est donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versée pour vous. »
Seigneur, nous voulons te remercier pour ce pain et cette coupe qui représente ton corps et ton sang qui a coulé. Nous te demandons que tu nous renouvelles spirituellement par la prise de ces éléments. Nous te demandons que nous puissions vraiment penser à ta souffrance et à ton amour, parce que c'est ça que démontre ce repas. Et nous te remercions que voilà, tu nous invites à partager ce repas dans la joie, dans la reconnaissance et dans l'amour entre nous. Amen.
Si vous désirez participer à la scène avec la coupe, vous faites signe et nous la porterons. Nous prions. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, parce que par Jésus-Christ, tu fais alliance avec chacun d'entre nous. Au travers de la mort de Jésus, tu nous trouves dignes d'être tes partenaires dans la nouvelle alliance que tu engages avec l'humanité. Et ça, c'est extraordinaire. Accorde-nous ton Saint-Esprit pour que, dans la semaine qui s'ouvre, nous puissions laisser apparaître, que nous puissions vivre la puissance libératrice du pardon, la puissance du pardon que tu nous as accordé et la puissance du pardon que nous pouvons oser accorder. Amen. Nous chantons « Ta parole est une lampe ».
C'est juste ?
C'est ça, oui. Et durant ce chant, nous recueillons l'offrande. Seigneur, nous te remercions de pouvoir, au travers de cette offrande, participer à l'émergence, l'arrivée de ton royaume. Bénis cette offrande, qu'elle serve vraiment à l'avancement de ton règne. Amen. Voilà, alors nous arrivons aux annonces. Première annonce, je passe la parole à Béatrice Lédevant. Oups. Je sais pas pourquoi. C'est une annonce au sujet des
paquets de Noël.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, on est arrivé au début de notre action paquet de Noël en faveur des pays de l'Est. Et je vous informe donc qu'elle va commencer dimanche prochain, 23 octobre, et qu'elle se terminera le 13 novembre. Cette action est en faveur donc de 7 pays de l'Est, soit l'Albanie, la Bulgarie, la Biélorussie, Moldavie, Ukraine, Serbie, et encore, je vous oublie toujours un, Roumanie, voilà. Elle est destinée donc aux personnes qui sont dans une grande précarité, dans une grande misère. Là-bas, il n'est pas rare que ces personnes vivent dans des taudis, c'est plus des taudis que des maisons délabrées, et ils sont sans chauffage, sans électricité et parfois même sans eau courante, avec des températures qui descendent très souvent en dessous de moins 15 degrés. Donc, vous voyez dans quel désarroi ils sont. Et donc, c'est grâce à votre générosité et à vos dons que nous leur apportons la possibilité d'avoir un moment de douceur à Noël, de pouvoir partager des moments chaleureux. Et puis surtout, c'est important qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et que nous ne les oublions pas. Et c'est aussi recevoir un cadeau, comme tout le monde, c'est aussi avoir gardé sa dignité. Et je voudrais dire à ce sujet que vous pouvez, pour celles qui ont encore le temps, tricoter des écharpes. C'est relativement assez vite fait, surtout pour les enfants, parce qu'on en a toujours bien besoin et il en manque tout le temps. Et aussi cette année, vous pourrez apporter vos dons, non pas ici dans cette salle, il y a un petit changement, ce sera dans la salle des Toons, donc première à gauche en entrant, à l'étage inférieur. Et donc dès la sortie du culte, vous pourrez déjà tirer un ticket pour ce que vous aimeriez leur offrir. Je vous donne un bon petit conseil, c'est de mettre tout de suite ce ticket dans votre porte-monnaie, ainsi lorsque vous serez au magasin, eh bien, vous n'aurez pas de doute ce que vous voulez apporter. Et concernant la collecte de samedi prochain au centre commercial devant la COP, j'ai urgemment besoin de personnes qui voudraient bien consacrer, voire une heure et demie de leur temps, parce que pour l'instant, je n'ai quasiment personne. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je contrôle quand même, parce que... Oui, je vous ai tout dit. Voilà. Merci.
Ce mardi 18 octobre, il y a la rencontre du fil d'argent à 14h quelque chose. 30, ah voilà, oui. 14h30 avec témoins et disciples du Christ au Bénin, Lucie et Damien Gaulet. C'est l'occasion de partager avec eux et entre chacun. Samedi 22 octobre, vous trouverez ce flyer sur le présentoir. Daniel Buech est un membre de l'Église évangélique de l'Espérance. Il donne un concert, il vient de sortir un CD au profit de la mission évangélique Braille. Il est lui-même malvoyant. Voilà, un excellent pianiste et chanteur. Vous êtes invité le 22 octobre à 20h à l'église évangélique de l'Espérance. Le 12 novembre, c'est un peu plus loin, bâtir des hommes pour le royaume de Dieu, c'est la journée masculine. Si vous désirez plus d'informations, il y a ce flyer, il y en aura d'autres, j'imagine, et Alexandre Paulet. Ah oui, c'est Alexandre Paulet qui a le stock de flyers. D'accord, oui. Donc vous pouvez être nombreux à vous y intéresser, il a un stock important de flyers. Je le vois, il est juste là devant. Voilà. Et puis Alexandre est à disposition pour tout renseignement que vous pourriez souhaiter. Ça, c'est la dernière annonce qu'on m'a remise. Les mariés d'hier, Justine et Philippe, ont mis à disposition des petits pots de confiture qu'ils ont confectionnés eux-mêmes. Vous les trouverez à la sortie. Servez-vous. Et puis, il y a des gens qui me font des signes. C'est tout un boulot de faire des annonces. Mais je savais, Monsieur Werner Gerb a fêté ses 90 ans le 8 octobre. Félicitations. Et avec son épouse, ils ont le plaisir de nous inviter tous à l'apéro qui suit ce culte. Merci beaucoup. Voilà, alors on se réjouit de partager un verre en votre honneur. Je laisse maintenant la parole pour la bénédiction à Michel.
Nous voulons encore prier, je vous invite à vous lever. Seigneur, maintenant tu nous envoies vers nos maisons et effectivement nous sommes dans cette semaine qui commence ou qui se termine, mais nous sommes avec toi, Seigneur. Et nous te confions tout ce que seront ces prochains jours. Nous te demandons que nous puissions être remplis de ton esprit et que tu nous donnes vraiment de mieux comprendre ton amour pour chacun d'entre nous. Que la paix et l'amour vous soient donnés avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Très bon apéritif et dimanche.